Frédéric Boilly, professeur titulaire au campus Saint-Jean, l'Université de l'Alberta, spécialiste de la politique canadienne et québécoise, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Parce que vous vivez dans l'autre réalité, même si vous êtes francophone. Parlez-nous un peu de votre perception inversée là, de ce sondage ce matin et de l'événement dans son ensemble là, du débat en anglais qui est en train de changer, là, de transformer la campagne électorale au Québec. C'est le plus gros événement de la campagne jusqu'à maintenant, plus que ce qu'ont fait tous les chefs.
Oui, effectivement. Bon, d'abord, sur la question en tant que telle. Moi, j'ai été vraiment surpris aussi quand la question a été posée, surtout au début du débat. Et ce qui m'a surtout gêné, c'est le fait qu'elle ne soit posée qu'aux chefs du Bloc québécois et qu'on n'ait pas demandé aux autres de s'exprimer. Donc, au-delà de la question, il y a tout cet aspect-là. Pourquoi ne pas avoir posé la question en direct à tous les chefs et leur demander...
C'est un bon point. Mais si on aborde... C'est une chose de dire, on aborde la question de la loi 21, de la loi 96, mais que l'animatrice, sur le ton de l'affirmation en préambule de la question, il y a un problème de racisme au Québec, les lois sont discriminatoires, on n'interroge pas, on ne demande pas au chef du Bloc, vous ne craignez pas qu'elles aient un caractère discriminatoire. L'animatrice l'affirme comme un fait, là. Ce qui me paraît quand même au minimum être un débat d'opinion. Elle prend position, elle l'affirme comme un fait. Il y a un problème de racisme au Québec, les lois sont discriminatoires. C'est bizarre, non?
Oui, ça c'est bizarre, c'est clair. En même temps, il y a une partie de l'opinion publique canadienne-anglaise qui attendait cette question-là. Je dis une partie de l'opinion publique canadienne-anglaise parce que ce que j'ai observé du côté de l'Alberta notamment, puis l'après-débat aussi, durant la fin de semaine, j'ai examiné attentivement les commentateurs politiques. Et finalement, c'est vrai que la question est passée sous le radar. On a évoqué bien d'autres sujets. Et je vous dirais que durant cette campagne électorale, la question du racisme présumé au Québec, c'est pas ce qui dérange
non.
Les conservateurs du côté de l'Alberta ou de l'Ouest canadien. En revanche, du côté de la gauche, ça, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est-à-dire Parti néo-démocrate de Rachel Notley et compagnie. Là, on a beaucoup mis l'accent à chaque fois qu'il y avait une législation québécoise en matière identitaire, c'était souvent critiqué de manière très virulente. Donc, au Canada anglais, c'est vrai qu'on peut le prendre dans son ensemble, mais en même temps, le Canada anglais n'est pas un bloc monolithique. Il y a des opinions aussi qui s'expriment surtout du côté de Toronto.
Je comprends bien. Il y a deux cas, on dit le Canada anglais, là, mais prenons sur le cas de la loi 21. On fait un exercice ensemble. Mettons qu'on fait un sondage au Canada, dans le reste du Canada, hors Québec, mais on parle pas de la loi 21 puis du Québec, on mentionne pas ça. On dit juste, seriez-vous d'accord que votre province, quelle qu'elle soit, implante une loi qui interdit le port de signes religieux? Là, on pourrait donner donner des exemples pour les personnes en autorité. À mon avis, je parle pas de la ville de Toronto où les gens vont dire non, on veut pas une loi de même, etc. Mais dans l'Ontario rural, dans la Saskatchewan, dans le Manitoba, dans l'Alberta, peut-être Edmonton, je pense qu'on pourrait être surpris que l'opinion serait peut-être pas si loin que ça de celle des Québécois, non? Que les gens souhaiteraient la laïcité, qu'on évite le port de signes religieux. Il n'y a pas deux réalités au Canada entre le Toronto, Vancouver, mettons, puis d'autres provinces ou d'autres parties des provinces?
J'inclurais Edmonton également dans ça.
Ah
parce
oui?
Que la ville d'Edmonton, vous savez, le paysage religieux est très fractionné en Alberta et particulièrement Edmonton. Vous avez de nombreuses églises de toutes sortes et la police municipale d'Edmonton avait accordé le droit de porter des signes religieux à certaines communautés ethniques, précisément pour être capable justement d'aller les rejoindre certaines communautés culturelles. Donc, il y a cette appréciation-là différente, c'est-à-dire que quand on est en Alberta, il n'y a pas eu la domination de l'Église, d'une Église, comme ça a été le cas avec l'Église catholique au Québec. Et donc, on n'a pas le même rapport au...
À la laïcité.
À la laïcité.
Donc, au lien de la laïcité et l'État, par exemple.
Oui, exactement, parce que aussi, dans les régions rurales, ben, vous avez de multiples églises et différents courants religieux. Donc, il n'y a pas eu cette domination-là, ce qui fait en sorte que le paysage religieux est fractionné. Et donc, pourquoi avoir une loi sur la laïcité, ça créerait énormément de tensions. Ça veut pas dire, par ailleurs, que ce qui se fait au Québec est nécessairement désapprouvé. Certains vont le désapprouver. Par exemple, les commentateurs de droite l'ont désapprouvé, la loi 21. Mais je voudrais surtout pour critiquer Trudeau. C'est-à-dire que dire que Trudeau a un deux poids, deux mesures.
Il est mou avec le Québec.
Ouais. Il est mou avec le Québec, mais pas avec avec les autres. Souvent, c'est ta consommation interne, tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, que Rachel Notley, le Parti néo-démocrate, dénonçait ça. Mais c'est souvent pour mettre l'embarras, les conservateurs dans l'embarras et les obliger à s'expliquer sur ces questions.
Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a une conscience, il va peut-être l'avoir seulement le mardi matin en découvrant les résultats, là, mais est-ce qu'il y a une conscience, mettons, dans l'Ouest canadien, d'à quel point ça a aidé le Bloc? Que cette question-là, mettons, le Bloc, bon, ça allait pas mal leur campagne, mais disons que ça manquait un peu de souffle, là, ça manquait un petit peu. Moi, dans mon langage, la semaine d'avant, je disais que le Bloc, il manquait un os là, bien plein de chair pour mordre dedans, là, tu sais. Et est-ce qu'ils sont conscients à quel point ça a aidé? Probablement que quand on aura le résultat du Bloc québécois, tous les analystes du Québec, on dira qu'il y a X sièges du Bloc ou X % du vote du Bloc pour lequel il faut dire merci à Shashi Kaur, la modératrice du débat en anglais.
Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y a cette prise de conscience-là. D'abord, parce que avec la pandémie qui vient d'exploser, la quatrième vague, notamment...
Ouais, vous autres, en Alberta, ça va assez mal, là, hein?
Oui, ça va...
très mal, oui.
Très mal, même. Le système de santé est sous pression. Donc, pour le moment, c'est ces questions-là qui accaparent, je vous dirais, autant que l'élection fédérale elle-même qui accapare les commentaires politiques et les commentateurs. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que la question en tant que telle, elle a passé sous le radar au sens où on n'y a pas vu de problème, mais on n'y a pas accordé d'attention en disant « Ah, enfin, la question est posée et ça oblige le chef du Bloc québécois à se positionner. »
Mais en Alberta, qu'est-ce qu'on pense tout court de voir le chef du Bloc au débat en anglais? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un étranger qui est débarqué?
Oui. Ben, c'est un étranger tout simplement qui est là, mais dont on note pas d'une certaine façon la présence. C'est surtout les autres chefs qui ont été analysés et commentés, mais pour le chef du Bloc québécois dans
on
des...
s'en fout.
Oui, d'une certaine façon, ouais, on peut le dire comme ça.
Ouais. Je reviens sur l'élection fédérale plus largement. Est-ce que c'est vrai que parce que le l'Ouest, la Saskatchewan, je pense, avait donné des comtés tout conservateurs, l'Alberta tous sauf un. Est-ce que ça pourrait être un peu moins monolithique? J'entends que les NPD rêvent de faire une coupe de gains en Alberta et les libéraux aussi. Est-ce que ça pourrait être un peu moins monolithique conservateur ou à la fin ça va rester très bleu?
C'est possible que ça change, mais j'interprète les sondages qui montrent des courses serrées avec un grain de sel, parce que parfois, ce qui arrive avec les sondages, ils sous-estiment un peu le vote conservateur et surestiment le vote soit néo-démocrate ou libéral de quelques points. Or, quelques points de pourcentage, mais vraiment des fractions, ça peut faire une différence. Et dans les circonscriptions, par exemple, du côté d'Edmonton, semble-t-il qu'il y en aurait trois possiblement qui pourraient retourner aux libéraux, donc deux qui étaient déjà aux libéraux en 2015 et peut-être même une nouvelle, mais ça serait surprenant que cela se produise, mais c'est pas impossible. Mais comme je vous l'ai dit,
il y a des luttes, là.
Les sondages surestiment un peu le vote progressiste.
Ouais, parce que souvent il y a des étudiants là-dedans, il y a des groupes qui dont le taux de participation à la fin là, est assez faible, hein. Qui sont là pour le sondeur, que le sondage trouve, qui ont vraiment telle opinion, mais qui sont un peu moins présents le jour du vote, là.
Et des conservateurs qui sont plus présents le jour du vote et qui sont moins présents dans les sondages.
On voit
également ce phénomène.
Ouais. Un mot sur la COVID, vous l'avez effleuré, là, mais la situation, l'Alberta, c'est la province présentement où la situation est la plus difficile. Au prorata de la population, c'est de loin la province où il y a le plus d'hospitalisations au Canada. Comment vous décririez la situation actuelle?
La situation est vraiment très critique parce que ce qu'on entend des médecins, c'est que le système de santé pourrait être submergé au début du mois d'octobre. Là, présentement, on est sur une trajectoire où on a dépassé les scénarios les plus faibles. Là, on serait... la question qui se pose, est-ce qu'on s'en va sur les scénarios, c'est-à-dire le taux d'hospitalisation en soins intensifs vers le scénario qui est considéré comme étant moyen, ou le scénario le pire, le plus élevé.
Le scénario catastrophe, là.
Oui, là, ça, c'est le scénario catastrophe. Et là, pour le moment, on ignore sur quelle trajectoire on est. Surtout que le gouvernement est très, très hésitant et c'est pratiquement incompréhensible, notamment sur la question du passeport vaccinal qui n'est pas encore imposé et à peu près tout le monde le demande.
Bon, il est dans presque toutes les provinces, peut-être une ou deux petites de l'Atlantique. Puis Saskatchewan, est-ce qu'ils l'ont implanté, eux?
Je pense pas.
Il reste Saskatchewan puis Alberta, essentiellement.
Oui, oui. Et comme je vous l'ai mentionné, c'est demandé à la fois par les milieux d'affaires, même que là, présentement, ce qu'on voit, c'est que des institutions y vont, procèdent tout simplement avec leur propre passeport vaccinal, comme l'Université de l'Alberta où j'enseigne. On a commencé la session sans avoir un passeport vaccinal, mais là, on a eu la directive au début de la semaine, comme quoi, là, maintenant, il faudra avoir une preuve de vaccination. Et le gouvernement, tout ce qu'il dit, ben, c'est que vous pouvez aller la chercher sur le site services de santé Alberta, mais que c'est pas une imposition à la grandeur de la province.
Professeur Boily, merci d'avoir été là.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.